Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, je suis Anne Dugin, je suis la rédactrice en chef de la revue. Rémi est comment te dis, membre de notre comité de rédaction, jeune pilier de ce comité de rédaction. Et on est tous les deux co-auteurs de ce podcast Esprit, une revue dans l'histoire, dont on va vous parler, qu'on va vous présenter et dont on va même vous faire écouter quelques extraits. Alors, comme le disait Yannick, on est très heureux de cette invitation pour vous parler de la revue Esprit, pour vous parler de la revue Esprit aujourd'hui, mais on choisit de le faire en vous faisant découvrir son histoire, puisque Esprit a eu 90 ans en 2022. Ça a été l'occasion d'un travail important pour nous de retourner à cette histoire, d'abord de se demander comment on avait envie de fêter cet anniversaire, de reprendre un certain nombre de réflexions qu'ont eues nos prédécesseurs à l'occasion d'anniversaires précédents, et notamment la reprise, la réédition et l'augmentation de ce petit livre qui s'appelait déjà Esprit, une revue dans l'histoire, et dont une première version était parue, oui, à l'occasion des 70 ans de la revue, au début des années 2000. Et donc on a fait ce travail de reprise, d'une lecture de cette histoire de l'intérieur par ceux qui faisaient la revue, en croisant la grande histoire et la petite, l'événement et l'engagement, comment une revue avait traversé quasiment le siècle et en s'y engageant. Voilà. Alors, il y a mille et une manières de définir une revue, et on y reviendra par ses engagements, par ses combats, donc, par son style d'intervention, par sa forme, qui elle aussi a beaucoup changé. Mais peut-être pour rentrer dans cette histoire et ce questionnement sur ce qu'est une revue, j'aime bien, et je sais qu'Anne-Lorraine Bujon l'aime bien aussi, revenir à une polysémie de ce terme que je trouve très intéressante. Donc si je prends la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, une revue c'est trois choses. C'est d'abord l'action, le fait d'examiner de nouveau, le fait de reprendre point par point les divers éléments, les divers aspects d'une question passer en revue. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méthode de travail, d'un type de travail intellectuel qui, je pense, nous convient bien. C'est aussi, évidemment, et c'est l'acception la plus connue, une publication périodique, le plus souvent mensuelle, qui présente généralement un bilan dans un domaine particulier et qui s'intitule « Revue ». Et donc là, on a affaire à un objet qui est composé d'une certaine façon et qui organise un certain nombre de réflexions, de connaissances. Et puis, la troisième définition, une revue, c'est un genre théâtral qui est apparu au début du XVIIIe siècle dans les petits théâtres de la foire et dans lequel étaient présentés sur un mode comique ou satirique des personnalités connues et des événements de l'année. Un spectacle d'amateurs joué par les membres d'un groupe et mettant en scène les plus marquants d'entre eux. Et c'est aussi une manière, cette définition de la revue, donc là plutôt cabaret, plutôt théâtre de boulevard, d'envisager de manière intéressante ce qu'on fait, à savoir un groupe d'hommes et de femmes qui ont des qualités, des savoir-faire, des connaissances, et qui fabriquent ensemble un numéro, un petit numéro, pour donner à voir ensemble ce qu'ils pensent d'un certain nombre de questions. Alors, une méthode, un objet, un collectif, c'est un peu cette diversité que nous avons cherché à approcher. Donc, pour cette revue, qui a été fondée en 1932 par le philosophe Emmanuel Mounier, et qui ensuite à cette longue histoire. Et pour démarrer, Rémi vous en dira plus sur ce projet de podcast en tant que tel et qu'est-ce qu'il représentait. On commence par vous faire écouter un petit extrait qui est l'extrait le début du premier épisode, le tout début.
Esprit. Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Esprit, une revue dans l'histoire. Épisode 1. 1932-1939, naissance d'une revue. Nous sommes révolutionnaires doublement, mais au nom de l'esprit. Une première fois, et tant que durera l'humanité, parce que la vie de l'esprit est une conquête sur nos paresses, qu'à chaque pas nous devons nous secouer contre l'assoupissement, nous adapter à la révélation nouvelle, nous épanouir au paysage qui s'amplifie. Une seconde fois, en 1932, parce que la moisissure du monde moderne est si avancée, si essentielle, qu'un écroulement de toute sa masse vermoulue est nécessaire à la venue des nouvelles pousses. Avant notre renaissance, on l'a dit, il nous faut un nouveau Moyen-Âge. Refaire la Renaissance, Emmanuel Mounier, octobre 1932.
La fondation d'esprit, elle est inséparable d'une génération.
Michel Vinocq, historien, membre du comité directeur d'esprit de 1970 à 1977.
Et évidemment, d'un moment de l'histoire. La génération, c'est celle des années 30. Celle de ces jeunes gens, qui ont alors entre 20 et 25 ans. Et une génération qui est fortement caractérisé. J'ai eu l'occasion, dans mon livre sur esprit, d'appeler cette génération la génération orpheline. Orpheline, pourquoi ? Parce que les pères sont morts à la guerre, ou alors ils sont revenus en piteux état, blessés, gazés, mutilés, de sorte que les générations antérieures tiennent les places. La France est soumise, on peut dire, à une gérontocratie.
Il y a eu une obsession de cette jeunesse dans l'après-Première Guerre mondiale, dans les 10 années après la Première Guerre mondiale, où tout le monde parlait de la nécessité de rénover le pays par l'intermédiaire justement de ces jeunes.
Emmanuel Laurentin, journaliste, membre du comité de rédaction d'Esprit depuis 2013.
Et il faut se souvenir que, par exemple, ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, quand ils avaient 5 ou 6 ans à la fin de la guerre, se souviennent et se sont souvenus dans des mémoires en particulier qu'ils étaient, comme le disaient certains, des enfants d'un temps où les monuments aux morts étaient blancs. C'est-à-dire ce moment en particulier où on inaugure dans tous les villages de France des monuments aux morts qui aujourd'hui nous apparaissent comme vieillots, anciens, correspondant effectivement à une période déjà dépassée pour nous, mais qui pour eux est une période extrêmement féconde. Ils assistent en tant qu'enfants des écoles à l'inauguration de ces monuments aux morts. On y chante les chants patriotiques, on y rend hommage à ces jeunes qui sont morts à 20 ans sur les champs de bataille de Verdun ou de la Somme. Et donc il y a cette obsession, pourrait-on dire, d'un monde qui a vieilli prématurément et qu'il faut absolument régénérer. Il y a la question de la régénération. Et il y a là la matrice, pourrait-on dire, de tous les discours des années 20 et des années 30.
La France a vieilli. Et la nouvelle génération ressent ce vieillissement. Et elle veut s'affirmer. Et comment s'affirme-t-elle, évidemment ? Comme d'habitude, elle s'affirme par la révolte.
Bonsoir et à mon tour de vous remercier pour votre invitation et d'être là et également. Comme on l'a entendu, là c'est toujours intéressant aussi d'avoir des écoutes collectives puisque le podcast est devenu un peu le lieu de l'intime où on écoute tout seul dans des moments comme ça privilégiés. Donc je suis très content qu'on puisse faire une petite écoute collective ce soir aussi. Et pour cela, je vais quand même revenir aussi à la genèse des podcasts pour une revue comme Esprit. Comme disait Anne, 90 ans, une revue qui toujours se questionne sur comment est-ce qu'on fait circuler les idées, comment est-ce qu'on investit le débat public, l'espace public avec ces idées-là, comment est-ce qu'on reste Esprit en faisant un podcast, donc avec une certaine volonté de tenir aux lignes qui sont celles de la revue, à l'exigence qui est celle de la revue. Et donc, l'idée a été de travailler pour les podcasts de la revue Esprit sur comment fait-on de podcasts de vie des idées, comment est-ce qu'on arrive à incarner Esprit dans des podcasts et comment est-ce qu'on arrive à ramener la revue, comme disait Anne, non pas sur son histoire, mais sur une vie continue, sur une énergie de la réflexion, du débat, quitte à utiliser bien sûr ces ressources immenses qui sont celles de l'histoire de la revue, mais de les mettre dans une actualité de format, de flux et peut-être aussi d'accessibilité, notamment pour toucher de nouveaux publics, de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices. Et donc tout ça a justifié cette création de podcast à la revue Esprit. D'abord par un format qui s'appelle À plusieurs voix, où avec Anne Dugin, nous avons cherché et nous avons demandé à des membres du comité de rédaction d'aller chercher un texte dans la revue qui était important pour eux et de dire pourquoi est-ce qu'il mérite d'être lu, relu aujourd'hui. Donc voilà une concordance des temps, toujours d'aller chercher dans le passé pour comprendre non pas le monde qui vient, mais le présent, et de remettre aussi des plumes, des textes, des réflexions au goût du jour. Et pour le podcast Au grand jour aussi, donc le podcast culturel de la revue Esprit, de rappeler aussi que dans la revue Esprit, il y a toute une démarche de penser la culture, une démarche de critique, mais aussi là de pouvoir faire un podcast de la vie culturelle, de trouver quelque chose un peu de l'ordre de la balade, de formats radiophoniques là qui sont plus proches du reportage. Et c'est très intéressant d'avoir une liberté de format dans ces podcasts. Et donc, fort de cette expérience, en commençant cette expérience, les 90 ans donc l'année dernière de la revue arrivent et on se dit bon, ce serait quand même bien de faire un podcast sur les 90 ans de la revue Esprit, notamment aussi parce que il y a une forte part du témoignage, besoin de capter des voix, besoin de faire des archives, besoin de faire vivre cette revue, d'aller à la rencontre des témoins. Une revue qui a 90 ans, on n'a pas toujours la chance d'avoir ses premiers témoins et de moins en moins plus le temps passe. Et donc il y avait cette nécessité aussi de compiler des voix et de rendre cette histoire vivante, de l'incarner. Et donc il y a eu ce projet de documentaire. Au tout début, sur qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les lignes pour ce documentaire, Anne, Lorraine et Anne nous ont dit, bon, on va faire une grande traversée un peu à la France Culture. Et là, bon, j'étais assez inquiet parce que les grandes traversées sont des travaux colossaux qui demandent des équipes à plein temps sur plusieurs mois. Et j'ai dit, on sera jamais capable de faire ça. Et au final, bon, bah, on a travaillé un an, on a fait un documentaire de 5h30, 7 épisodes, 15 heures de rush à travailler. Et voilà, on a été pris dedans et on est allé aussi investir ce nouveau format qui est celui du documentaire avec plusieurs idées. La première, comme je vous l'ai dit, c'était de faire une histoire incarnée, mais aussi une histoire sensible de la revue Esprit, de faire une histoire d'esprit sans être confidentielle, sans faire juste un moment... un podcast pour nous qu'on écoute initié et de se dire ah, c'est super, cette anecdote, c'est génial. De faire aussi donc pour ça une histoire plus accessible de la revue qui, comme on va en parler avec Anne, s'est toujours tenue proche et dans les événements et donc par cette même manière de faire aussi une histoire intellectuelle du XXe siècle et de trouver un équilibre là-dessus qui est l'équilibre en fait qui est celui de la revue Esprit, qui est le lien entre événement et engagement. Et donc ça, Anne va vous en parler tout à l'heure, mais dans cette direction-là, il y avait donc la nécessité d'incarnation, donc de recueillir des témoignages, de recueillir des paroles, de préparer aussi un assemblage, un alliage entre une incarnation à travers les textes de la revue et ses publications, une forme de résonance donc entre ce couple événement engagement, mais aussi d'avoir un imaginaire sonore qui justifie le format audio, puisque aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas une critique, le format podcast peut être une bonne idée, comme ça, tiens, on va faire des podcasts. Il faut qu'il y ait une utilité sonore derrière. Il faut penser le médium sonore comme ayant sa raison première d'être. Et là-dessus, on a vraiment essayé de travailler là-dessus, avec notamment Hortense Bellotte, qui a lu les textes et qui a réussi à incarner aussi les textes de la revue, qui est donc comédienne, avec Valentin Fernandez et Mathias Moreau, qui sont deux jeunes musiciens qui ont créé une musique originale et qui ont essayé d'embrasser ces 90 ans en créant des mouvements musicaux Et tout ça, bien sûr, mis en, dans la boîte par le superbe travail de notre réalisatrice Louise André. Donc, justifier vraiment le passage au sonore pour rendre cette histoire vivante et réussir à l'incarner. Et donc, on est parti du découpage de ce petit livre-là, qui découpe en fait l'histoire de la revue en plusieurs périodes, qui sont des périodes avec des moments historiques, vraiment 68, mais qui sont aussi des coupures parfois, qui sont celles de la vie de la revue et du comité. Donc vraiment toujours cet alliage. Et comme l'a dit Anne, et je pense qu'elle va pouvoir vous en parler, on s'est rendu compte de plein de choses en faisant ce podcast, en allant fouiller dans les archives, en allant chercher des textes, en écoutant aussi des souvenirs, des témoignages intimes, des choses parfois bouleversantes, des souvenirs d'immenses camaraderies, de grands doutes parfois, de questionnements profonds. Il y a quand même quelque chose qui reste dans cette histoire et dans cette traversée de 90 ans, c'est que Esprit s'est toujours arrimé donc sur ce couple événement-engagement qui a été la source de notre écriture narrative, mais qui au final est la vie de cette revue.
Alors de ça, on avait envie de vous dire un petit mot du rapport entre l'événement et l'engagement. En fait, sans vous annoncer un plan, on avait envie, à partir de cette histoire et de ce que Rémi et moi et tous les auditeurs qu'on a eus et qui nous ont fait des retours, de vous présenter pour nous des lignes de force de ce qu'est Esprit aujourd'hui à travers ce qu'on a perçu dans cette histoire mise en mots, mise en notes, mise en épisode. Il y avait un peu trois fils. Le premier, c'est le rapport entre l'événement et l'engagement. On y reviendra. Le deuxième, c'est l'enjeu de la transmission, qui est un enjeu en soi dans toute revue et dans celle-ci en particulier, puisqu'elle s'est transmise plusieurs fois, ce qui n'est pas si courant. Et un troisième aspect très important à nos yeux, qui est évidemment une certaine conception du travail intellectuel comme travail collectif. Et qui, là encore, est a priori le fait de beaucoup de revues, mais pas tant que ça, si on se penche sur leur histoire. Alors, événement, engagement. Pourquoi il nous paraissait si important de partir de cette notion d'événement qui traverse réellement toute l'histoire d'Esprit ? Il y a une formule d'Emmanuel Mounier, qui est dans ses livres d'ailleurs, qu'il n'a pas eu dans la revue, il me semble, mais qui est tout le temps reprise, enfin qu'on retrouve très souvent dans la revue, qui est « L'événement sera notre maître intérieur ». Alors c'est une formule qu'il emprunte lui-même à Saint-Augustin et qui a une importance tout à fait capitale pour la manière dont l'équipe et les fondateurs se posent la question du travail de la revue. Pourquoi ? Parce que la revue a vraiment été bousculée par les événements des années 30, qui se succèdent évidemment à un rythme assez soutenu. En fait, cette revue et ce groupe d'amis qui la fondent, ils posent les prémices de ce qu'ils ont envie de faire au milieu des années 20, quand ils ont 20-25 ans. Esprit naît en 1932, mais ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Et quand ils lancent ce projet de revue, le mot qu'ils ont sans cesse à la bouche, c'est « révolution spirituelle ». Ils sont porteurs d'un projet qui n'est pas loin d'être assez utopique au sens propre, qui est arrimé à la philosophie du personnalisme communautaire. On y reviendra si ça vous intéresse. Ils ont un peu envie de renverser la table. Ils sont assez dégoûtés par une certaine lecture qu'ils font d'une crise de civilisation qui diagnostique comme très profonde. Et ils ont une grande méfiance à l'égard du politique. Ils en sont très critiques. Et en fait, c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent vraiment qu'Esprit soit une contribution de long terme à une refondation de la civilisation. Allons-y franchement. Mais ils sont assez vite rattrapés par une histoire qui s'accélère avec des événements comme évidemment l'arrivée d'Hitler en Allemagne, le 6 février 1934, la guerre d'Éthiopie en 1935, la guerre d'Espagne. On sait à quel point ça vient bousculer les milieux intellectuels. Et puis, bien évidemment, les accords de Munich. Et donc, très tôt dans son histoire, cette revue est confrontée à qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas envie de prendre des positions politiques et pour autant on se sent convoqué par un événement par rapport auquel on a le sentiment qu'on ne peut pas faire comme s'il n'avait pas lieu, qu'on ne peut pas regarder ailleurs. Il y a une figure là qui joue un rôle tout à fait central dans l'histoire d'esprit, qui est Paul-Louis Landsberg, qui ne fait pas partie des fondateurs, qui rejoint l'équipe quelques années plus tard et qui mourra en déportation pendant la guerre, et qui joue en particulier auprès de Mounier un rôle considérable, qui est de le faire un peu redescendre. Il y a un texte très important de lui que vous pouvez lire dans les archives, qui date de 1937, qui s'appelle « Réflexion sur l'engagement personnel », et dans lequel il développe toute une théorie de l'engagement qui fonctionne sur deux plans. On ne peut pas ne pas s'engager face à un événement qui vous convoque, mais attention, il n'y a jamais de cause pure. Il n'y a que des causes impures. Et s'engager dans l'histoire, c'est accepter de s'engager dans ses ambivalences, c'est accepter de se dire qu'on s'est peut-être trompé. Et la guerre d'Espagne est effectivement la toile de fond avec laquelle ils réfléchissent à tout ça, et ça jouera un rôle déterminant dans l'orientation de la revue, qu'on retrouve, et là je cite un second texte et une seconde figure très très importante pour la revue, plusieurs décennies plus tard, sous la plume de Paul Ricoeur, dans un texte très connu qui s'appelle « Le paradoxe politique », qui paraît en 57, qui en fait au départ est un article dans Esprit, et qui est une réaction directe à l'invasion à Budapest, en fait, à l'invasion des chars soviétiques dans Budapest. Alors là, le contexte, c'est qu'on est à un moment où on est après la guerre. La revue, à ce moment-là, et depuis l'après-guerre, est assez proche du communisme. Michel Vinocq, à propos de cette période, a parlé de philo-communisme. La revue s'en sent beaucoup plus proche qu'au moment de sa fondation, dans les années 30. Elle se pose plein de questions. Enfin, la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport au communisme, c'est la question de ces années-là, des années 50. Et arrive Budapest. Et arrive ce choc de l'événement et qui réellement convoque le comité et toute l'équipe dans une grande violence. Que dire de ça? Que penser de ça? Est-ce qu'on doit continuer à adhérer à cette philosophie de l'histoire qui rend possible une chose pareille? Et Ricoeur dit non. Ricoeur, et il n'est pas le seul d'ailleurs, prend la plume. Et c'est un moment très important c'est un tournant au sens où la revue reprend une position qu'elle gardera jusqu'à la fin des années 80, de critique du totalitarisme soviétique, d'engagement auprès des sociétés à l'est du rideau de fer et de dissidence. Et Ricoeur a dans ce texte cette formule que comme l'événement sera notre maître intérieur, qu'on retrouve dans de multiples textes ensuite, que l'événement de Budapest, comme tout événement digne de ce nom, a une puissance indéfinie d'ébranlement. Voilà. L'événement nous déplace, on doit le recevoir, non pas vierge, parce que ça c'est jamais possible, mais en tout cas, on ne doit pas le penser à partir d'une grille de réflexion qui lui préexiste. Et ça, c'est vraiment un fil qui court tout au long de l'histoire de la revue, et il nous a semblé, de façon très évidente, imprimer des traits qui sont vraiment des constantes dans le travail intellectuel et politique de cette revue. Le premier, on l'a déjà dit, mais c'est une méfiance un petit peu constitutive à l'égard de tout ce qui va représenter une grille de lecture idéologique. C'est ce que je disais tout à l'heure. On s'efforce à Esprit de chercher à interpréter le monde à partir de sa rencontre et pas à partir de grilles de lecture qui lui préexistent. Le second trait qui nous paraissait intéressant de souligner, c'est le lien qui est toujours fait entre pensée théorique et engagement dans l'action, en quelque sorte. C'est-à-dire que la figure de l'intellectuel homme impur, c'est une figure dont Esprit s'est toujours beaucoup méfié à travers les âges. Et c'est lié à ce postulat de Landsberg que il faut accepter de s'engager, y compris dans des causes imparfaites. Et donc Esprit a toujours eu une oreille attentive vis-à-vis des gens qui étaient en responsabilité, dans les syndicats, dans la politique, dans l'entreprise, dans les associations. C'est une parole avec laquelle on ne veut pas perdre pied, et jusqu'à aujourd'hui. Et puis, le dernier trait important, qui, il nous semble, vient de là également, c'est une conception du travail de revue comme un travail qui consiste à distinguer ce qui fait événement et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui modifie la continuité de nos représentations ? Qu'est-ce qu'un événement ? C'est-à-dire qu'en fait, à force de se répéter qu'on doit penser et travailler à partir de ça, ça a une conséquence très claire que l'événement, ben, il faut l'identifier, il faut le nommer, il faut tourner autour. Tout ne peut pas être événement. Et donc, il y a aussi ce travail de hiérarchisation des informations, bien sûr, même si on n'est pas la presse, mais de hiérarchisation des façons de penser ce qui nous arrive à travers le questionnement sur ce qu'est un événement. Voilà, ça c'était un premier fil dont on voulait vous parler pour évoquer une continuité de ce qu'est le travail d'esprit. Et puis il y en a évidemment un second qui est moins constitutif que le premier, mais qui est venu avec le temps, qui est qu'Esprit c'est une revue qui dure un petit peu, là ça fait 90 ans, donc c'est une revue qui s'est transmise, donc c'est une revue qui a changé de main. Et en réalité, ça lui donne en soi une couleur, des caractéristiques, une épaisseur qui, il nous semble, la définissent aujourd'hui. Et pour en parler, on va vous passer un second petit extrait. Ça, là, c'est le début du troisième épisode.
Esprit, une revue dans l'histoire. Épisode 4. 1954-1968, décolonisation et modernisation.
La relève des générations était un souci permanent de Mounier. Une génération s'est formée à l'école d'esprit depuis 10 ou 15 ans. La résistance, la libération lui ont donné son style. Les compagnons de Mounier, les membres de l'équipe d'avant-guerre, ont voulu qu'elle prenne maintenant la plénitude de ses responsabilités et affirme la continuité d'esprit en même temps que son rajeunissement. Déjà, d'autres garçons approchent de l'âge adulte qui n'ont pas vécu l'épreuve de l'occupation, les espoirs de la libération. S'ils sont disposés à puiser aux sources communes, ils n'ont pas cependant la même histoire. Esprit ne pouvait leur présenter le visage d'une institution assise, satisfaite de son passé et se perpétuant sans heurts. Ce que nous critiquons ailleurs ne saurait exister chez nous. Le temps est venu d'essayer un renouveau et de tendre la main du plus près possible à ceux qui vont entrer dans leur vie d'homme. Pour ces raisons, le comité directeur d'Esprit a décidé de confier à Jean-Marie Domnac la direction de la revue. Relais, Esprit, novembre 1957.
Domnac, quand il arrive au pouvoir, dans la revue, parce qu'une revue, c'est aussi une question de pouvoir.
Goulven Boudic, politiste, membre du groupe politique d'Esprit de 1999 à 2005.
Quand il arrive au pouvoir dans la revue, il dit aux uns et aux autres, bon, écoutez, là maintenant, terminé. Passons à autre chose. Et ce passons à autre chose, il l'a déjà préparé d'une certaine manière. Depuis 1953-1954, il anime quelques petits groupes à l'intérieur de la revue. Il fait monter un certain nombre de ses proches. Parmi ses proches, il y a Michel Crozier. Michel Crozier qui joue un rôle absolument déterminant dans le parcours intellectuel de Domnac, avec qui il aura une amitié indéfectible, qu'ils maintiendront jusqu'à la fin de la vie de Jean-Marie Domnac. C'est un très proche. Et Michel Crozier joue dans la coulisse le rôle du sociologue qui arrive avec une façon de penser le monde un peu différente de la sociologie marxiste, des approches progressistes. Et il va imprimer, avec Domnac, un tournant certain à la revue à partir des années 56-57, et surtout à partir du moment où Domnac refonde à son tour la revue. Hein, il refonde en mettant à l'écart une grande partie des anciens. Bon, vous avez joué votre rôle, vous avez transmis le relais, maintenant c'est notre tour. Et donc il prend le pouvoir, il refonde le comité de rédaction. Il écarte quelques-uns, il proclame surtout une forme de lassitude à l'égard des débats sempiternels sur Mounier. Même s'il y reviendra par la suite, en donnant sa propre lecture, il ne dit pas que Mounier, c'est du passé, mais on ne peut pas être obnubilé et obsédé en permanence par cette question de la définition de ce que serait une orthodoxie personnaliste. C'est ça qui se défait déjà avec Domnach, c'est cette question de l'orthodoxie et du rapport à l'héritage.
Donc cet extrait est très intéressant, je trouve, pour deux raisons. La première, c'est que le texte qui parle du fait que Jean-Marie Domnach va diriger la revue a une tonalité joyeuse, une tonalité vigoureuse, un peu un côté place aux jeunes, les idées. Il y a de l'engagement, il y a de l'emballement, parce que Domnach, il a été dans cette revue, il est entré très jeune, il a un peu fait ses classes, il a écrit des papiers, il est monté, il a dédié sa vie à l'esprit. Il y a un peu un côté, l'enfant de la revue est arrivé à sa direction et fêtons cela. De l'autre côté, il y a aussi dans ce passage la question de Emmanuel Mounier, de l'héritage d'Emmanuel Mounier et de comment est-ce qu'une revue peut-elle ou doit-elle survivre à son fondateur. Et Emmanuel Mounier meurt subitement en 1950. Il meurt d'acharnement, enfin, il meurt de s'être trop acharné à faire cette revue. Certains disent qu'il meurt presque même de fatigue en écrivant des papiers et en menant cette revue à bout de bras. Donc quand Anne aussi parle d'engagement, il y a de l'engagement aussi de sa personne qui jusqu'au bout a mené vraiment à tout donner pour cette revue. Mais quand Emmanuel Mounier meurt subitement en 1950, se pose vraiment la question de « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Comment on continue ?» certains même sont prêts à arrêter la revue, mais qui va continuer ? Et donc toutes ces questions qui sont advenues par un drame vraiment qui n'était pas prévisible a obligé la revue à se poser des questions de comment continuer et donc par la suite de devoir intégrer à cause de cette histoire-là, de cet événement-là, la nécessité de transmettre de son vivant et en permanence cette revue, pour qu'elle puisse continuer. Et on a des exemples de revues généralistes intellectuelles qui n'ont pas survécu à leur fondateur. Je pense quand même au débat, au temps moderne, qui sont des revues qui soit n'ont pas voulu, soit n'ont pas choisi, soit qui n'ont pas pris cette responsabilité ou ce choix de transmettre de leur vivant et que les revues dépassent leur fondateur. Par là aussi, il y a quand même un enjeu sur la transmission. C'est que, je ne vais pas faire de la fiction non plus, mais Emmanuel Mounier, Esprit aurait pu rester la revue d'Emmanuel Mounier, mais aussi la revue du personnalisme en tant que pensée. Et donc avec cette mort aussi subite, il y a, comme là on l'a entendu dans l'extrait, toujours par rapport aux héritages, le moment où on va s'affranchir du personnalisme, on va le retravailler, on va prendre ses distances, on va le questionner face à l'époque, on va le mettre en pratique, le mettre au défi. Mais cette perspective fait que Esprit a eu comme source le personnalisme, mais n'est plus la revue personnaliste. Et ça, c'est très important et très intéressant d'un point de vue de la transmission. Ce qu'on voit aussi là-dedans, je vous parlais d'une transmission plutôt joyeuse là pour Domnach. La personne qui a succédé à Emmanuel Mounier n'a pas eu du tout une transition facile. On parle de Albert Béguin qui se retrouve là avec des petits jeux de pouvoir. Est-ce qu'il doit être là ou pas là ? Quelle est sa légitimité ? Quelle est sa continuité du projet personnaliste ? Et surtout, quelle patte va-t-il amener à la revue ? Albert Béguin, c'est un critique littéraire suisse qui donc aussi a cette veine peut-être plus culturelle, qui a son vraiment quelqu'un qui a une vision vraiment du travail du livre, de l'édition. Mais donc là, le passage de témoin, la transmission, elle est douloureuse. Et dans l'esprit, il y a des transmissions douloureuses. Il y a des lignes de continuité, mais la volonté, comme on l'entend là avec Domnal, qui est très symptomatique, de rupture, de proposer de nouvelles lignes, de dire, bon, on va prendre cette direction-là. Et donc, une revue qui se transmet aussi de son vivant doit affronter aussi que la transmission, parfois, se passe pas tout à fait bien ou doivent surmonter certaines épreuves. Et je crois que, dans la question de la transmission, le terme d'épreuve est très important puisqu'il met en jeu les lignes, les volontés et les collectifs aussi. Et je pense que la force de cette revue, et ce n'est pas toujours agréable, c'est d'avoir eu à surmonter des épreuves pour continuer à exister. Avec qui, comment, pourquoi même. Je pense à un enjeu qui n'est pas celui des années 2000, enfin qui n'est pas celui de la transmission directement, mais je vous parlais de la raison pour laquelle on a fait un podcast, l'idée de, en tant que revue, devons-nous faire un site internet ? C'est une même manière de penser aussi le rapport de génération et le rapport aussi à la transmission. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on se rend compte que la revue est aussi un continuum, en fait, et qu'à un moment, il y a le côté, on parle de l'esprit, c'est une institution, mais si on ne réfléchit pas et si les personnes qui la dirigent aussi n'impliquent pas cette nécessité permanente de passer la main, de faire confiance, d'ouvrir la porte, à un moment aussi, une revue, elle vit, puisqu'il y a des nouvelles plumes, il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des nouveaux événements qui la traversent, mais il y a quand même cette idée de toujours ouvrir la porte aussi à des nouvelles générations. Et je me permets d'en parler, puisque je me sens concerné par cette question. Je crois que c'était il y a 6-7 ans, je pousse la porte d'esprit pour faire un stage. On m'installe directement, on m'offre un café et directement on est dans le bain en fait. Et directement, il y a des gens qui passent. On est, en tant que stagiaire, invité à participer au comité de rédaction où on a le droit de donner son avis, de prendre la parole. On nous dit d'écrire une première note de lecture, de faire ses premiers papiers. Et d'un point de vue transmission, ça c'est quand même très important à dire aussi que Esprit, tu parlais de la polysémie du mot revue. Esprit, c'est une revue, c'est un nom, c'est une publication, mais c'est aussi un lieu dans lequel cette transmission-là agit et est vécue. Et donc, je pense que c'est aussi important de rappeler que une revue, c'est un corps vivant, avec tout ce que ça peut avoir de vie parfois difficile, contrariée, de je ne sais pas jusqu'où on peut pousser la métaphore, mais parfois de maladies à traiter, mais aussi parfois d'énergie immense en fait qui anime ce corps vivant. Et la transmission, en tout cas telle qu'on l'a vue dans l'histoire de cette revue, a permis, je pense, d'arriver jusqu'à 90 ans, parce qu'il y a eu cette question qui s'est posée toujours et qui a irrigué aussi ce travail collectif.
Alors, une revue qui a un rapport particulier à l'événement, un rapport particulier à la transmission. Et pour terminer, le dernier fil qu'on voulait évoquer avec vous, c'est un certain rapport au collectif, le travail intellectuel conçu comme un travail collectif. Et on va vous faire écouter le dernier extrait du dernier épisode.
Il y a une formule qu'on a beaucoup utilisée dans un tas de contextes différents sur le fait qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors ça semble extraordinairement prosaïque ou anecdotique, mais je pense que devant la perception de tout ce qu'on a perdu, devant la perception de tout ce qui se défait dans un rapport aux institutions, dans un espoir, dans un avenir meilleur, dans notre capacité à transformer la société pour le mieux, il y a ce constat de perte, cette volonté d'être lucide sur tout ce qui se défait, se décompose, de tout ce qui s'est perdu du côté du lien. Et je crois qu'il reste dans un certain nombre de nos projets, de nos chantiers, de nos envies, de nos idées, cette idée du lien qui me semble très forte, un lien à retrouver, donc je l'ai dit, un lien à soi-même, un lien aux autres, un lien au monde dans lequel on habite. Et donc, il ne faut pas lâcher cette question, quoi. Donc, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni en termes de droits de l'homme, ni en termes de société démocratique, ni en termes de discussion et de débat. C'est une formule qui pour moi, résume un état d'esprit, une inclination, une orientation de travail dans une série de domaines aujourd'hui.
En traversant les générations, Esprit a changé de main et de forme. Et cette longévité s'est traduite par des inflexions, des engagements successifs, des reformulations programmatiques qui sont le propre de la confrontation au temps long. Mais si l'histoire finit toujours par avoir raison des lignes idéologiques, la traversée implique de garder les yeux fixés sur quelques balises qui guident la route même quand celle-ci devient sinueuse. L'aventure se poursuit et le relais se transmet à de nouveaux auteurs et autrices, à de nouveaux lecteurs et lectrices, toujours plus nombreux ces dernières années. Qu'ils connaissent et partagent cette histoire, ou qu'ils aient poussé récemment la porte, c'est avec eux et pour eux que nous remettons l'ouvrage sur le métier, en vue de l'invention, de mois en mois, d'une réponse neuve à l'événement neuf. Avoir 90 ans, Esprit, novembre 2022.
Alors, la fin de cet extrait, en fait, est une citation d'Albert Béguin, « L'invention de moi en moi, d'une réponse neuve à l'événement neuf », qui vient d'un texte de lui qu'on aime beaucoup dans la rédaction, qui s'appelle « Fidélité et imagination », et qui est le texte qu'il écrit après la mort de Mounier, son premier texte en tant que directeur, où il s'adresse au lecteur, et qui résume, un texte dans lequel il y a plein de choses qui nous aident encore à travailler aujourd'hui, et qui a à voir avec ce qu'on vous disait sur l'événement. Alors voilà, on voulait terminer sur la revue comme collectif, qui conçoit le travail intellectuel comme une activité collective. Vous l'avez vu à travers les photos, les visuels de comités de rédaction ou de réunions de travail qui défilaient derrière nous. Esprit, c'est un lieu, comme le disait Rémi, et c'est un lieu dans lequel il y a toujours des gens et des groupes de gens. Esprit, et ça c'est pas si courant, c'est pas une revue de personnalité. Il y a des gens très connus à Esprit, évidemment, Emmanuel Mounier, Ricoeur, aujourd'hui il y en a plein d'autres, mais il y a aussi plein d'inconnus dont vous n'entendrez jamais parler. Si vous tapez leur nom dans Google, vous voyez juste qu'ils ont écrit dans Esprit, et ils n'ont sans doute pas eu une contribution bien moindre qu'un certain nombre de grandes figures que tout le monde connaît. Même quelqu'un comme Paul Ricoeur, on ne dirait pas d'Esprit que c'était la revue de Paul Ricoeur, comme on disait des temps modernes que c'était la revue de Jean-Paul Sartre. Il y a un rapport à la question de la figure, de la personnalité, qui n'est pas tout à fait le même, qui fait davantage de place au collectif. Ce collectif, il vit dans des instances, donc un comité de rédaction, évidemment, qui a pu être à certains moments de l'histoire un comité directeur, mais pas que. Il y a une institution dont il est beaucoup question dans ce podcast, qui s'appelle le journal à plusieurs voix, qui a donné son nom à la première rubrique qui ouvre encore aujourd'hui la revue. Et le journal à plusieurs voix, qu'est-ce que c'est ? C'est une réunion qui a lieu une fois par semaine. Aujourd'hui, on fait des réunions de journal, mais qui ont plutôt lieu à un rythme de deux fois par mois. Et voilà, on pousse la porte, on se fait un sandwich, et on discute de toutes sortes de questions, de ce qui a fait l'actualité de la semaine. On invite un auteur, heures à présenter un papier, un livre. Et c'est un lieu extrêmement important de commande de papier, d'idées, tout simplement. C'est aussi un lieu de formation des jeunes qui prennent solennellement la parole pour la première fois au journal à plusieurs voix, qui se font retoquer leur papier une fois, deux fois, et puis la troisième fois, ça passe. Et puis, à Esprit, il y a aussi des comités abrités par la revue, mais associés à des personnalités ou des associations ou différents groupes engagés sur des causes. Donc je pense au comité Vukovar Sarajevo qui a été fondé pendant la guerre des Balkans. Il y a eu de multiples comités, évidemment, pendant la guerre froide avec les dissidents de l'Est, le comité Syrie-Europe après Alep au moment de la guerre en Syrie, le comité Russie-Europe, qui est devenu le comité Russie-Europe pour l'Ukraine après le 24 février. Et ça, ce sont des lieux où Esprit est en cheville avec d'autres espaces de la société civile, des militants mobilisés sur des questions qui nous intéressent en tant que revue, mais à travers lesquelles on va garder un lien avec des modes d'action, on y revient, qui ne sont pas uniquement ceux du travail intellectuel. Et puis Esprit, c'est une signature collective. Depuis le premier numéro, les éditos sont signés Esprit. Quand bien même quelqu'un a tenu la plume, cette signature est un peu une marque de fabrique. Enfin, je ne pense pas qu'on soit les seuls à faire ça, mais qui témoigne du fait qu'il y a toujours eu une discussion collective qui amène la revue à décider que ce mois-ci, c'est de ça dont il faudrait parler et il faudrait en parler comme ça. Mais c'est intéressant, cette signature collective, parce qu'elle n'est pas du tout synonyme d'un unanimisme des positions pour autant. C'est-à-dire, qui dit travail collectif dit dialogue, et qui dit dialogue au risque du désaccord. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient dans toute l'histoire d'Esprit, le fait que c'est une revue dans laquelle on accepte de n'être pas d'accord. Alors, il a été question, dans le deuxième extrait qu'on vous a passé, d'une figure importante qui est Michel Crozier. Michel Crozier qui s'est rapproché de la revue dans les années 50, et puis qui va s'en éloigner, justement, parce qu'il ne sera plus d'accord. Il ne sera plus d'accord avec un certain nombre de choses dans cette revue, et ça se passe notamment autour de 68. Mais en 83, il a donné un très beau texte à la revue où il revenait sur ses souvenirs de jeunesse dans Esprit, comment il avait découvert Esprit, comment il avait frappé à cette porte, comment il avait été accueilli. Et c'est un très beau texte dont je vous lis un tout petit extrait. Il dit « Quand je repense aujourd'hui au groupe Esprit, une image me revient toujours, celle de 12 hommes en colère. Quand le film fut projeté quelques années après cette période, je fus fascinée, mais je ne reconnus pas tout de suite ce que j'avais vécu. Avec le recul du temps, le déclic finit par se faire. Si j'aimais tant Esprit, c'est que je m'y sentais Henri Fonda, celui qui va faire découvrir aux autres cette vérité plus profonde qu'ils portent en eux, mais refusent encore de reconnaître. » Donc c'est un très beau texte, vous pouvez le lire dans nos archives, il est très drôle et touchant, il explique aussi qu'il s'est éloigné et les raisons pour lesquelles à un moment il a senti que ce n'était plus sa revue, preuve qu'on peut, le désaccord est quelque chose qui existe réellement, mais il parle de ce qu'on a évoqué plusieurs fois, à savoir la possibilité de se laisser déplacer dans la discussion avec l'autre, et que même c'est ça qu'on attend en fait, c'est-à-dire que quand on démarre une discussion, on accepte d'en ressortir avec des idées un peu, beaucoup différentes que celles qu'on avait quand on commençait. Mais la question c'est jusqu'où ? Jusqu'où un collectif peut rester un collectif uni en étant pas d'accord sur un certain nombre de choses. Jusqu'où est-ce qu'on a besoin de lignes communes, de lignes rouges, on ne sait pas comment il faut les appeler, qui manifestent que on a beau pas être d'accord, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se rejoint qui font qu'on reste un collectif qui a sa cohérence. Alors le désaccord dans Esprit, il existe. On aurait pu faire une traversée de toute cette histoire à travers les désaccords. Je pense, je l'ai évoqué, au rapport à la question du communisme dans les années 50. Ça, c'est un sujet de débat assez brûlant. On l'a évoqué avec Crozier, mai 68 est un moment de débat important. La réforme des retraites en 1995 est un moment de débat un petit peu houleux parfois. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je ne dirais pas que c'est une question de désaccord, mais le sujet de la fin de vie suscite des discussions dans la revue sur lequel on sent bien que tout le monde n'a pas forcément le même avis. En tout cas, il y a discussion et présentation de points de vue qui ne sont pas toujours complètement convergents. Toute la question, c'est comment est-ce que le désaccord est mis en scène éditorialement. Comment il ne se crispe pas juste en interne pour susciter une impossibilité d'en parler, puisqu'on n'est pas d'accord. Comment il peut être, comment il s'expose éditorialement, comment il existe et comment il nourrit en fait la revue et lui permet de se faire. Là-dessus, et il y a des passages très intéressants dans le podcast, notamment l'épisode 3 dont on vous a passé un extrait. La fonction du directeur, aujourd'hui de la directrice de la revue, c'est vraiment celle du mât ou du pilier qui va garantir qu'autour de lui ou d'elle, le champ de force peut se déployer, mais que ça ne craque pas, que le vent peut continuer à souffler dans la voile et la revue d'avancer. Et puis, c'est se dire qu'on a quand même besoin de fondamentaux, de balises, comme on le disait dans cet édito des 90 ans, qui guident la route, qui sont des repères et qui, eux, vont rester stables. Alors, des balises, il y en a un certain nombre et je ne vais certainement pas en faire la liste. Mais à titre d'exemple, je vous dirais la question de la dignité de la personne humaine. C'est quelque chose qui est présent dès le départ, qui s'ancre dans la philosophie personnaliste chère à Emmanuel Mounier, qui se reformule dans le combat pour la démocratie et l'affirmation par esprit, à un certain moment de son histoire, que cette dignité, elle a pour condition nécessaire, sinon suffisante, l'existence d'institutions démocratiques, et puis dans le combat pour les droits de l'homme et le droit international à partir des années 90 notamment. Je pense à une autre. Il y aurait une balise comme ça autour de l'importance accordée à la révolte comme moteur des sociétés humaines. Il y a toute une histoire à faire de cette thématique dans Esprit. La question de la dimension spirituelle de la vie humaine, qui c'est pas pour rien que cette revue s'appelle Esprit, c'est pareil, elle est présente dès le départ. Le personnalisme comme refus de deux matérialismes, etc. Aujourd'hui, on en voit la trace dans l'engagement d'esprit sur des questions comme la laïcité, ou plutôt comme le refus d'une compréhension de la laïcité comme simplement étendard politique. Donc voilà, des balises plus qu'une ligne, des convictions plus que des certitudes, et le propre d'une conviction plus que d'une certitude, c'est qu'il faut la relancer dans le moment présent, c'est qu'il faut toujours se demander de cette intuition dont on sait qu'elle traverse l'histoire de notre vue, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, comment elle nous aide à penser, et c'est un travail qu'on essaye de continuer à faire. Et je passe la parole à Rémi pour conclure.
Oui, pour conclure, peut-être déjà ce travail a été un grand plaisir parce que on a nagé dans cette histoire, dans les textes, dans les archives. On a fait des entretiens qui parfois étaient assez bouleversants et parfois aussi, il y a toujours cette dimension, quand tu parlais du collectif, il y a les souvenirs de moments. C'est des souvenirs, quoi. Il y a les numéros de revue, mais il y a des souvenirs de débats, de véritables, en fait, qui reviennent à chaque fois qu'on parlait à nos interlocuteurs. Là-dessus, je voulais dire que ce podcast, évidemment, il a une fonction de fêter un anniversaire, de traverser cette histoire. Je pense qu'aussi, il permet, en revenant dans toutes ces lignes, dans ce que tu appelles des balises, de comprendre aussi qu'il y a là-dedans le ferment peut-être de l'action d'aujourd'hui, de peut-être, je ne pourrais pas dire une boussole, mais de se rappeler qu'il y a des fondamentaux, de se rappeler qu'il y a des balises, qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qu'il y a des choses qui sont non négociables, comme tu disais. Et je vais prendre deux exemples, mais le premier, c'est celui de Esprit, Revue Internationale, qui était un des sous-titres de la revue, et qui, quand tu parles de cette présence dans les conflits, guerre d'Espagne, guerre d'Algérie, Yougoslavie, de ces comités qui ont été arrimés, tu as parlé du comité pour l'Ukraine, pour la Syrie, pour la traduction, d'être en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger, qui vivent les événements dont on parle, ça c'est vraiment des choses qui se ressentent encore aujourd'hui, qui sont des matrices, des boussoles. Il y a aussi cette question de la démocratie, des institutions, qui partent de Mounier, qui traversent même dans tout le travail de la revue sur les pays d'Europe de l'Est, qu'on appelait démocratie populaire, où il y avait vraiment un engagement presque physique, et en même temps la théorisation de cette importance de la démocratie, de cette fragilité de la démocratie avec Castoriadis, Lefort, Ricoeur, qui en fait, je trouve, ont toujours montré que Esprit avait conscience de la fragilité de la démocratie, de son inaboutissement, si je puis dire, mais en même temps a toujours essayé de trouver des solutions et de dire attention, là il se passe quelque chose et il se passe des choses graves. Et on le voit dans la manière dont, depuis quelques années, Esprit a vraiment fait attention à travailler sur les démocraties libérales. Quand on a un numéro aussi qui sort ce mois-ci sur Nommer l'extrême droite, il y a toute cette question-là de dire attention. Et je pense que le côté de revue un peu, je dirais pas lanceur d'alerte, mais les deux pieds aussi dans ce qui est en train de se passer est très important, puisque toute cette histoire permet aussi de lancer l'alerte différemment, je pense. Et pour finir, comme on est ici avec les amis d'Entrevue et que Esprit est une revue, c'est vrai que dans le podcast, il y a les grands événements, les grands textes, il y a toutes ces choses qui rappellent parfois comment est-ce que Esprit a eu une forme de prescience, a eu le nez creux sur pas mal de sujets, bien aidé par des personnes qui avaient quand même une capacité à capter les signaux faibles et à les retranscrire. Mais là, en guise de conclusion, je voulais aussi parler de 90 ans d'histoire. C'est tous ces numéros qui n'ont pas eu peut-être d'écho jusqu'à aujourd'hui, qui sont aussi le travail de revue, qui sont de mettre des enjeux à l'agenda comme des tentatives d'essayer d'aller explorer des sujets. Si un jour vous avez l'occasion de voir toute cette bibliothèque, parfois on sort un numéro et on se dit tiens, pourquoi ils ont mis ce sujet ? Pourquoi ils ont fait un numéro sur ce sujet-là ? Et ça rappelle que lorsqu'on a comme sous-titre aujourd'hui « Comprendre le monde qui vient », il n'y a pas la volonté non plus d'accéder au réel et d'avoir la prétention de tout expliquer, de tout comprendre, mais déjà d'essayer de le faire et d'aller explorer des sujets. Je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui un corps d'esprit, une revue, comme beaucoup de revues, que ce soit de création littéraire, de poésie, de toute forme de revue, a cette volonté quand même de continuer à explorer, à essayer, à mettre des sujets à l'agenda et de dire, on va réfléchir à ça, on va vous partager cette réflexion et on verra. Donc voilà, on verra. Et je finis là-dessus et merci à vous.
Je répète, quel est le tirage, demande monsieur, de la revue aujourd'hui ?
Alors voilà, donc Anne-Lorraine Bujon est sûrement plus à même que moi de répondre à ces questions. On tire à 7000 exemplaires. Esprit est une revue qui vide ses abonnements. Le cœur du modèle économique, c'est l'abonnement. On regagne des abonnés depuis quelques années et puis on la vend en kiosque, en librairie. Voilà.
Je vais rester du côté un peu trivial sur le nombre d'abonnements. C'est parce que je reçois vos lettres régulières, le mot d'esprit, je crois, c'est le vendredi.
C'est le vendredi, oui.
Les podcasts. Et puis, j'étais presque inquiet pour vous, parce que vous dites que vous regagnez des abonnements, mais depuis 6 mois, 1 an, je reçois comme des appels à soutien de votre part, des offres préférentiel pour s'abonner. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, justement ? Donc voilà, je voulais savoir si la revue était en forme. Donc vous semblez dire que oui. Et puis l'autre chose, quand on fait une revue, on s'interroge toujours, Rémi l'a dit. Vous avez beaucoup parlé des balises, est-ce que ça peut être un repère, etc. Et je me demandais si le fait de faire une revue aujourd'hui, c'était le bon endroit pour poser des balises, des phares, pour faire des découvertes. Est-ce qu'on avait le sentiment d'être entendu. Alors c'est très difficile, hein, puisque, comme tu le disais Rémi, parfois on est entendu très longtemps après la parole proférée. Donc, mais voilà, c'est un truc qui me paraît très intéressant parce que je suis persuadé que beaucoup de nos instances qui nous aident, qui nous financent, ont le sentiment que les revues sont sourdes, ou plutôt muettes. Donc est-ce que vous avez l'impression que votre parole est écoutée? Alors c'est très difficile à mesurer. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une zone d'influence? Alors c'est vrai qu'on voit parfois Anne Morel en tant que directrice de la revue à la télé. C'est très important. Non, mais c'est... Parce que l'incarnation est aussi relativement importante. Dieu sait que vous avez eu un directeur juste avant, Anne Morel, qui a une incarnation très forte. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est un peu tout ce pan de questions qui m'intéressait, puisque Rémi, tu as dit à quel point des revues ne savaient pas se transmettre, ne savaient pas survivre à ses directeurs ou ne voulaient pas survivre à ses directeurs. Et je me disais, ben voilà, est-ce que la revue a cette force de développer toujours des ondes au-delà des personnes qui l'incarnent?
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais essayer d'être brève et puis Rémi complétera et peut-être qu'Anne-Lorraine même complétera. Donc, on tire à 7000 exemplaires. On n'a pas encore 7000 abonnés. Voilà, ça, on y arrivera sûrement un jour, mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors, quant aux messages que vous voyez passer, effectivement, je pense qu'ils sont de deux ordres. Il y a des messages... promotionnel sur l'abonnement, de promotion sur l'abonnement, c'est Édouard Chignardet qui gère ça. Et évidemment, ça rentre dans une politique commerciale, on va dire, qui consiste à développer différentes offres, les proposer, faire en sorte que différentes personnes qui lisent une revue différemment aujourd'hui puissent trouver, entre guillemets, chaussures à leurs pieds dans différentes formules d'abonnement, parce qu'il n'y a plus une manière de lire la revue. Et puis, vous avez vu passer, je pense, des messages d'appel aux dons, via un dispositif qui s'appelle Presse et Pluralisme. Et effectivement, on assume tout à fait, comme d'autres médias aujourd'hui, dans un contexte où l'indépendance de l'édition et de la presse ne va plus du tout de soi, de solliciter nos lecteurs ou des gens qui se sentent proches de cette revue ou des gens qui aiment tout simplement les revues ou des gens qui sont tout simplement désireux de pouvoir contribuer à un espace public dans lequel il y a de la presse et des revues indépendantes, de nous soutenir et par là même de manifester une forme d'adhésion à notre projet, à ce qu'on fait et à ce que sont les revues dont on pense qu'elles ont un rôle particulier à jouer dans l'espace public. Donc c'est pas tant qu'on est mort de faim et qu'on demande de l'aide. Il reste que nous sommes une économie fragile, comme toutes les revues de notre nature. Mais effectivement, on sent qu'on a besoin que notre lectorat, et peut-être un peu au-delà de nos lectorats, adhère à ce qu'on propose, à ce qu'on cherche à faire. Et donc, on est dans différentes initiatives, mais notamment Presse et Pluralisme, qui permet de récolter via ce dispositif des fonds. Tu veux compléter, Anne-Lorraine ?
Oui, alors Anne a dit un certain nombre de choses importantes déjà, mais il y a une première question, je crois, que vous nous posez sur l'économie de la revue. Est-ce que la revue va bien ? Mais cette question n'est pas seulement économique. Donc j'ai envie de répondre oui, la revue va bien. Le signe qu'elle va bien, c'est qu'elle a beaucoup de projets, c'est qu'elle attire de nouveaux auteurs, c'est qu'elle fabrique des podcasts, c'est qu'elle essaye de se renouveler, c'est qu'elle plaît à ses lecteurs. Parce que dans le fond, on s'est demandé avec cette nouvelle équipe pour qui est-ce qu'on travaille, et c'est peut-être une façon de répondre à votre question sur l'influence. Pour qui est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on travaille pour avoir l'oreille des dirigeants d'entreprise ? Est-ce qu'on travaille pour être conseiller du prince ? Est-ce qu'on travaille pour être des agents d'influence ? Avec cette équipe, je crois qu'on a plutôt répondu qu'on voulait travailler pour nos lecteurs. Que s'il y avait des gens qui avaient besoin de lire, besoin d'éclaircissement, besoin de comprendre, besoin de recul, et qu'une fois de temps en temps, on a un message d'un lecteur qui dit « Merci, ce numéro, c'était formidable, j'y vois maintenant beaucoup plus clair », ou un message de lecteur furax qui dit « Vous n'avez rien compris, vous êtes passé complètement à côté du sujet, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire », on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Mais en réalité, on a pris le parti de faire plutôt plus de choses que moins.
Et donc, il y a aujourd'hui un numéro imprimé. Il y a le mot d'esprit qui est comme en fait un petit ensemble de textes hebdomadaires qui structure pas mal notre travail aussi. C'est très amusant parce qu'on se demande quel est le sujet d'actualité dont on a envie de parler cette semaine, sur lequel on sait qu'il y a des trésors dans les archives de la revue qu'on a envie de redonner à lire, mais c'est quand même comme une petite publication hebdomadaire. Et puis il y a des événements, il y a des vidéos, il y a de l'audio. Donc pour faire tout ça, on a fait grossir l'équipe. Donc ça, c'est pour une réponse plus directe sur l'économie. Depuis 2018 à peu près, on a vu remonter la courbe des abonnements et c'est formidable et c'est ça qui nous rend optimistes. Donc on a aujourd'hui autour de 3500 abonnés, mais ce qui nous intéresse, c'est que la courbe remonte après des années où elle descendait. Et ça, pour nous, c'est le signe que, en fait, l'économie dans laquelle on est, l'économie de l'attention, l'économie du numérique, c'est en fait aussi une économie qui est assez propice au modèle de l'abonnement, de former des communautés qui adhèrent, en fait, à un projet et qui sont aussi prêtes à le soutenir. Et c'est amusant parce que ça se traduit dans les termes numériques d'aujourd'hui, mais ça a toujours existé dans l'histoire de la revue. Et on retrouve périodiquement des appels à souscription dans nos vieux numéros qui sont parfois très drôles, enfin dans la plume, sous la plume de Domnac, par exemple, qui dit « Oui, bah alors peut-être que vous n'irez pas au cinéma ce mois-ci, mais au moins vous aurez donné de l'argent à une revue qui vaut la peine. » Donc il y a aussi une constante, là, on vit de la générosité de nos lecteurs, et ça a toujours été vrai, et voilà, et aujourd'hui ça se traduit différemment, donc... On a pris le parti de faire beaucoup de choses, donc on est aujourd'hui une équipe de 4, donc on n'arrive pas tout à fait à équilibrer nos comptes, mais on arrive presque à équilibrer nos comptes, et c'est pour ça aussi que vous voyez passer des appels parfois pour juste le petit plus qui manque pour joindre les deux bouts, mais j'aimerais que vous reteniez de tout ça que oui, la revue se porte bien.
Et si je peux compléter... pour un discours plus général sur les revues, elles ont cette condition qu'elles peuvent être à la fois absolument romantiques et absolument novatrices. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'une revue au XXIe siècle dans le monde de l'information en accès, en flux tendu, dans cet accès aussi au savoir, à connaissance à peu près partout, quelle est la condition de la revue au XXIe siècle, et aussi, je pense, de continuer, et je pense, dans ce que je disais tout à l'heure sur la démarche exploratoire, de continuer à essayer des choses, à toucher de nouveaux publics. Et surtout, je pense d'être, c'est un peu un terme négatif, mais comme une stase aussi, quelque chose qui permet, sur une lecture mensuelle, d'un moment se dire, on s'arrête, on va lire la revue, on va prendre du temps. Aujourd'hui, lire une revue, lire Esprit, ça demande du temps. La faire, ça demande du temps. Et tout ça est, je pense, aussi une forme de contribution et résistance à la fois aussi à l'époque. Et donc, je pense que se demander l'influence d'Esprit, c'est déjà de rappeler qu'on a la chance d'être là parce que la revue fête ses 90 ans. Et je pense que déjà, ça aussi, c'est peut-être une raison d'être. Parce qu'il y a quand même la capacité à toujours investir l'espace public, à mettre des sujets à l'agenda et de garder toutes ces lignes dont on a parlé plus tôt. Et je pense que c'est déjà ça une bonne nouvelle. Voilà.
Oui.
Je voulais d'abord vous remercier pour ce travail parce que je l'ai écouté cet été en courant dans le Péloponnèse avec un très grand plaisir. Et puis, c'est vrai qu'il y a une émotion qui transparaît de certains échanges que vous avez eus avec les uns et les autres. Voilà, et j'avais peur un peu du côté du risque d'embaumement inhérent à l'exercice. Et je trouve que quand on a la chance d'être dans l'écosystème Esprit, on voit bien les continuités. Vous avez réussi ça. Et j'avais une question sur un moment touchy de la vie d'Esprit, qui est la période Vichy, État français, qui donc a donné lieu à des critiques très sévères. Le dossier a été instruit, etc. Mais comment vous, dans ce mouvement qui raconte un peu l'ensemble de la vie d'Esprit, est-ce que ça vous a posé un problème particulier ce moment où Esprit continue à paraître quelques mois au moment de la Révolution nationale.
Alors nous, ça ne nous a pas du tout posé problème dans la mesure où là, vraiment, le travail avait été fait, si tu veux, par nos prédécesseurs, par la génération précédente. En fait, cette polémique, elle éclate vraiment dans les années 80. Et la revue s'est mobilisée à ce moment-là pour répondre, et notamment dans la bibliothèque de la revue, on voit que ces numéros-là, ces 9 numéros parus sous Vichy, ils ont été republiés à un moment où il n'y avait pas encore ce numérique, où on ne pouvait pas accéder si simplement aux archives. Ils ont été republiés pour être redonnés à lire. Alors, et pour que le débat puisse avoir lieu et que la revue puisse se défendre. En deux mots, qu'est-ce qui se passe dans... Tout un chapitre de ce livre y est consacré, et en fait une bonne partie de l'épisode 2, Une revue dans la guerre, y est consacrée également. Donc comme vous le savez sans doute, Emmanuel Mounier a pris cette décision assez controversée de poursuivre la publication sous Vichy, avec cette idée qu'il fallait que des espaces de résistance continuent d'exister, et que la revue devait en faire partie. J'ai parlé des moments où tout le monde n'est pas d'accord à la revue. Là, c'est un moment de gros désaccord. Il y a beaucoup de collaborateurs qui trouvent que c'est trop dangereux, que c'est un risque énorme à prendre. Et de fait, la revue sera assez vite arrêtée, interdite, et Mounier emprisonné. Donc il n'y a que 9 numéros qui paraîtront, parce que la censure finit par y voir clair, que c'est une revue très critique, que c'est une revue dans laquelle il se dit plein de choses qui ne leur plaît pas du tout. Mais c'est une question intéressante parce que, en fait, elle permet de faire un lien avec quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Les historiens qui se sont penchés sur la question et ceux de la revue qui sont encore là aujourd'hui pour en parler sont d'accord pour dire que Mounier a fait une erreur. Une erreur d'appréciation sur ce que pouvait une revue dans une situation comme celle-là. Et que tout attaché au travail intellectuel, au dialogue qu'il était, il a tardé à comprendre que il fallait aller se battre, en fait. Et que, alors lui, il n'était pas du tout un soldat dans l'âme, il ne pouvait pas se battre, il était aveugle, sourd d'une oreille, etc. Donc, c'est pas du tout ce type de personnage, mais il a cru trop vite que la guerre était perdue, que l'Europe allait devenir un continent totalitaire et qu'il fallait s'installer durablement dans une posture de résistance intellectuelle. Il a pas compris aussi vite que d'autres qu'on pouvait rejoindre le général de Gaulle, qu'on pouvait voilà. Il a peut-être cru un peu trop dans les vertus du travail de revue, y compris dans un espace comme celui de la France de Vichy sous la censure. Ça ne l'a pas empêché d'être un antifasciste de la première heure, parce que dans la polémique qui éclate dans les années 80, il y a ça, il y a le fait qu'il c'était pas un grand démocrate et que donc il participait avec d'autres d'un esprit de fascisme français. Ça, c'est les travaux de Zeev Sternel, qui ont été assez largement réfutés par Pierre Vidal-Naquet, par Michel Vinocq, etc. Mais cette question de que doit faire la revue, aurait-elle dû continuer à publier sous Vichy, c'est un sujet qui sur lequel aujourd'hui tous nos interlocuteurs convergent pour dire qu'il n'y avait pas de doute sur l'engagement d'Esprit, ça c'est très clair, et le fait qu'elle ait été interdite et Mounier arrêtée en témoigne. Mais peut-être qu'il y avait une confiance un peu trop grande dans ce que pouvait une revue dans une telle situation.
Oui, j'aurais une question un peu générale. Moi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur l'événement. Justement parce que je pense qu'on est dans une société où on a un problème de hiérarchisation. Tout fait polémique, tout fait événement. On se réveille le matin, on a l'impression que les punaises de lit, c'est un événement. Bon, ça pose problème quand même pour quelqu'un qui veut exercer son esprit critique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où donner de la tête et où donner de l'esprit, justement. Alors, comment vous faites pour hiérarchiser les idées, justement, parce qu'une revue, ça parle des idées, essentiellement. Comment vous positionnez par rapport aux autres revues? Comment vous positionnez par rapport à l'ère du temps? Comment est-ce que vous prétendez agir sur l'opinion? Parce que c'est ça, le problème, aujourd'hui. C'est qu'il y a un risque. La démocratie... finalement, le risque pour la démocratie, c'est la manipulation de l'opinion. La manipulation de l'opinion, on le voit régulièrement quand il y a des élections présidentielles. Donc je pense qu'effectivement, les revues ont un rôle très important, mais le problème, c'est qu'elles sont très peu lues, très peu entendues. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment vous faites pour vous positionner dans une société où tout est fait pour qu'on noie le poisson, où tout est fait pour qu'on empêche les gens de réfléchir. On est quand même dans une société de consommation avant d'être dans une démocratie.
Alors, heureusement, on est encore dans les deux, société de consommation et une démocratie. Bah, en tout cas, c'est un risque sur lequel on serait évidemment vigilant. Alors, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui caractérise le travail de revue comme un entre-deux. Un entre-deux qui, historiquement, a toujours existé entre un temps qui est celui de l'actualité, de l'information, qui est plutôt celui de la presse. Alors évidemment, la presse des années 30 et aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir, et notamment avec le rythme dans lequel on est pris. Et le temps du livre ou de la recherche, ce n'est pas exactement la même chose, mais en tout cas qui se déploie sur un peu plus de long terme, et des objets éditoriaux qui ont une durée de vie a priori plus longue qu'un numéro de revue. Donc c'est bien cet entre-deux-là qu'on cherche et qu'on essaye de valoriser. On dit qu'on a là l'occasion qu'une revue a besoin de l'existence de journalistes qui fassent le travail de l'actu, justement. C'est-à-dire que nous, on fait pas d'infos, on va rien vérifier, on fait pas d'infos. Si, on vérifie un certain nombre de choses, mais on s'appuie sur le travail de journalistes dont c'est le métier. Et dans ce que vous décrivez comme un grand moment de dérégulation, de confusion entre ce qu'est l'opinion, ce qu'est l'information, et on ne sait plus trop où on est, ça menace tout un chacun dans sa compréhension du monde, mais c'est un grand risque aussi pour une revue comme la nôtre que de ne plus pouvoir s'appuyer sur une information fiable, vérifiée, indépendante, etc. Et on ne remplacera jamais la presse pour ça. En revanche, les revues participent dès l'origine, c'est vrai, d'un espace public qui se cherche, qui n'a jamais été pur et parfait, mais dans lequel on contribue à notre mesure à ce que vous avez appelé la pensée critique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des discussions sur les faits. Un fait, ça s'interprète, un fait, ça se discute. Et donc la revue, c'est cet espace toujours très précieux, mais aujourd'hui très précieux, où les opinions peuvent circuler, où elles peuvent se former. Et c'est ça qu'on essaye de créer. C'est un espace qui soit favorable à ça et à une culture du dialogue ça, c'est un risque très contemporain, qui ne verse pas tout de suite dans la polarisation, dans l'anathème, dans l'assignation à quelque chose. Donc, sur tous les fils historiques qu'on décrivait, celui de la revue comme un espace de dialogue où on peut ne pas être d'accord, c'est majeur, et on essaie de capitaliser beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il faut des revues indépendantes pour ça, mais on a besoin, comme vous tous, d'une presse qui fonctionne pour faire correctement notre métier.
Bravo. C'est vrai que ces questions étaient très, très ouvertes et très intéressantes. Peut-être au montage, le service audiovisuel pourra non pas trafiquer les faits, mais revenir sur la conclusion que faisait Rémi tout à l'heure, de très belles phrases. Mais je retiens le slogan quand même d'un espace souvent capricieux, mais pourtant précieux. Bravo. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci à la Revue Esprit. Je vous invite, alors dans quelques semaines, donc ce sera en ligne sur Canal U, sur la chaîne de la FMSH, que nous remercions encore et souvent. Et le 16 novembre, nous invitons dans ces lieux mêmes la revue Société et Représentation pour parler de beauté, continuité avec l'esprit et votre beau projet. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.